Religion du monde. Geneviève Delru.
Bienvenue à vous tous, chers amis téléspectateurs, pour cette quatrième messe en direct confinée. Nous sommes toujours dans notre petit studio et beaucoup d'entre vous nous ont écrit le percevoir, ce studio, comme une nouvelle pièce de leur maison, de leur appartement ou de leur chambre, d'hôpital ou de prison. Et certains d'entre vous aussi nous ont dit avoir organisé autour de leur télé un petit espace avec une bougie allumée, une Bible ouverte, une icône, une statue de la Vierge Marie. Le confinement nous fait découvrir l'Église à la maison.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après le travail à la maison, l'école à la maison, en ce dimanche de Pâques, fête majeure du calendrier chrétien, c'est en effet l'Église à la maison, comme vient de le dire le frère dominicain Thierry Hubert, producteur sur France 2 de l'émission dominicale Le Jour du Seigneur et de la messe télévisée qui a explosé son audience, 1,7 million de téléspectateurs le premier dimanche du carême. Plus de 70 ans après la première messe télévisée, c'était à Noël en 1948, on le voit, le bon vieux poste est encore bien utile. Même si Internet a vu fleurir une multitude de propositions pour vivre ce carême confiné mais relié. Un carême 2.0 en somme, comme nous allons l'entendre dans le début de notre émission qui donnera ensuite la parole à des pasteurs, des théologiens, des philosophes sur le sens de cette crise sanitaire que le monde traverse.
Si vous peinez, si vous luttez, c'est ça, c'est bien.
Si vous avez du mal,
vous luttez.
Que vous avez peur de rien vivre.
Ou de ne rien pouvoir faire vivre à Pâques cette année.
On a un message pour vous.
Oublions nos streamings.
Oublions notre contexte.
Oublions ce qu'on sait.
Ou ce qu'on croit savoir.
Oublions nos habitudes.
Oublions nos prétextes.
Vivons cette Pâques comme si c'était la dernière.
Ou mieux encore, comme si c'était la première. La primera de las Pâques.
Non, on dit Pascuas en fait. Mais les mecs savent pas parler espagnol en fait. Ça me déçoit.
Les paroisses et communautés chrétiennes ont rivalisé de créativité et d'inventivité pour ce carême de confinement. Avec nous en ligne, Sinatou Saka, journaliste à RFI, spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Sinatou.
Bonjour Geneviève.
Alors vous êtes allée, on vient de l'entendre sur le web, relever des initiatives de jeunes qui manifestement s'en sont données à cœur joie pendant ce carême. Alors ce sont qui ces jeunes qu'on vient d'entendre ?
Alors ce sont d'ailleurs des jeunes leaders chrétiens qui font partie de différents groupes. Nous avons notamment l'église Lyon-Centre, nous avons pas mal de jeunes du Chemin Neuf qui se sont en fait rassemblés pour publier sur Internet une vidéo afin d'inciter toutes les paroisses à continuer de proposer différentes initiatives afin de maintenir le lien avec leur communauté.
Pour maintenir le lien, il y a Eugénie hein, qui a 27 ans, de la pastorale des jeunes du diocèse de Rouen, qui a monté carême en quarantaine. Alors bien sûr, elle a joué sur les mots, hein. Carême ça veut dire 40 jours, 40 jours avant Pâques. Alors carême en quarantaine, c'est quoi exactement ?
Alors carême en quarantaine, c'est une initiative donc lancée pour le carême. L'idée c'était de proposer à tous les jeunes donc présents sur Facebook une initiative capable de les aider en tout cas à mieux vivre leur carême en confinement. Le principe, il était simple, ils doivent se rendre tous les jours sur cette page afin d'avoir des méditations, des vidéos, tout ceci pour booster leur vie spirituelle en quelque sorte. Et Eugénie fait partie de ceux qui ont lancé cette page.
Alors, on l'écoute.
Avec mes collègues de bureau de la pastorale des jeunes, nous sommes une équipe de 4 jeunes. Et le jour de l'annonce du confinement, donc le lundi 16 mars, nous sommes retrouvés pour une petite réunion de crise parce que tout s'annulait pour nous, les activités que nous organisions, que ce soit les week-ends, les pèlerinages, les rencontres entre les jeunes, alors que c'est une période assez dense pour nous avant Pâques, pendant le carême. Et puis surtout, c'est une période assez importante pour notre foi. Du coup, on s'est tout de suite posé la question pour nous de comment rejoindre les jeunes pendant ce temps de confinement. Alors on a eu l'idée de proposer carême en quarantaine, qui a vu officiellement le jour le mardi 17 mars, le premier jour de confinement, à la fois sur Facebook, Twitter, Instagram. Et la même semaine, le père Ludovic du diocèse d'Évreux a également rejoint l'équipe. Et donc en quelques jours, nous avons eu plus de 1000 personnes qui ont commencé à s'abonner à nos contenus, des personnes de toute la France.
Alors Sinatou, Carême en quarantaine a aussi une page Facebook de partage, de chants, d'expériences diverses. Et ils sont aussi en lien avec Hosanna, une plateforme de prière et de partage. Et vous avez, Sinatou, interrogé son fondateur, Thomas Delinda, qui définit Hosanna comme l'Internet au service de la prière, Sinatou.
Alors Hosanna est en fait une association portée par des laïcs catholiques. Et en fait, cette association a développé le site hosanna.org qui permet en fait de créer ou de rejoindre des communautés de prière autour de propositions spirituelles. Et l'application Hosanna aussi permet de prier entre amis. Cette application qui est aujourd'hui en 4 langues connaît effectivement un grand succès avec le confinement et le nombre de visites est passé d'1 million de visites par mois à près de 2 millions de vues aujourd'hui.
Alors pourquoi est-ce qu'on a observé une telle explosion de l'audience depuis le début ? Eh bien, il me semble qu'il y a 2 raisons qui sont assez claires et évidentes. La première, c'est que dans les périodes de crise, les gens se tournent vers Dieu. Voilà, on pense plus facilement à Dieu quand on est dans le besoin que quand tout va bien. Et la grande force d'Hosanna, c'est cette dimension de réseau social. Et on observe, on a beaucoup de retours en ce moment, beaucoup de gratitude de personnes qui nous témoignent du soutien que ça leur apporte et du fait qu'ils trouvent, voilà, dans Hosanna un lieu où ils peuvent se sentir unis avec d'autres.
Sur ce carême 2.0, sur ce carême en ligne, les paroisses, on le voit, ont multiplié les initiatives depuis la mi-mars, comme celle menée par Philippe Thirion et son épouse, bénévoles tous les deux très actifs de la paroisse Saint-Denis du Saint-Sacrement dans le Marais à Paris. Alors depuis l'interdiction à la mi-mars de célébrer des messes, tous deux partent le dimanche matin, munis de leur portable, filmer la messe dans cette paroisse. Bonjour Philippe Thirion, est-ce que j'ai correctement présenté votre travail de reporter et de caméraman ?
Oui, en effet, vous l'avez bien rappelé, si ce n'est que ce n'est pas avec un portable, mais avec un bel appareil photo reflex haute définition, les micros, on a la chance d'avoir ce matériel qui nous permet de filmer la messe tous les dimanches matins.
Alors, filmer à 9h et après, mise en ligne.
Oui, c'est un peu la course le dimanche matin. On a petit à petit, au fil des dimanches, amélioré la technique. L'objectif étant de mettre en ligne l'horaire habituel de la grand-messe dominicale vers 11h à 11h30.
Philippe Thirion, vous êtes également le président d'une association qui œuvre à Madagascar, qui s'appelle Esperanza, Joie des enfants, Esperanza avec un Z. Et vous venez de lancer, avec 2 autres associations, une grande opération 100 000 masques pour Madagascar. Alors expliquez-nous cette grande opération avec la fabrication de masques sur place à Madagascar.
La Madagascar est un pays dans lequel les pouvoirs publics ont pris très tôt, dès le 6 janvier, extrêmement au sérieux la crise du coronavirus. Et Madagascar est un des pays véritablement les plus pauvres de la planète. Esperanza Joie des enfants, l'association que je préside, y intervient depuis 1996 et nous nous sommes engagés dans l'initiative qui a été lancée par nos amis d'Alliance et Mission Médicale et par le représentant local du relais à Fianarantsoa dans une opération de production locale de masques en tissu réutilisable avec un slogan 100 000 masques pour Madagascar. Ce qui est formidable, c'est l'élan qui s'est organisé autour des congrégations qui sont nos partenaires sur place pour mobiliser des couturières, mais tout cela ne serait rien si nous n'avions pas la capacité de financer l'achat des matériels et la rémunération des couturières qui vont faire le travail. Et en 48 heures, nous avons eu la grande joie d'obtenir le soutien de la fondation du groupe EDF qui vient nous accorder cette semaine, mardi 7 avril, un soutien qui va permettre de démarrer toute cette action et la production à l'heure où je vous parle a déjà démarré à Antsirabe, à Imad et à Fianarantsoa.
Alors le coût de production s'élève à 40 centimes contre 4 à 5 euros en France et ces masques seront distribués gratuitement.
Alors, les masques seront distribués gratuitement, bien évidemment, en fonction du volume de production. Et là, j'invite tous ceux qui nous écoutent, particuliers, entreprises, fondations, à se joindre à cette initiative. Ils peuvent consulter notre site internet esperanzajoiedesenfants.org. Et chaque goutte d'eau est importante. Un de nos amis a mobilisé des associations dans sa région, dans le sud-est, qui vont également apporter leur soutien. Les masques iront d'abord, comme chez nous, au personnel de santé, au personnel soignant. Ce sont des masques réutilisables qui répondent à la norme que l'AFNOR a validée cette semaine et aux recommandations de l'Académie de médecine française également.
Et vous rappelez effectivement dans votre communiqué que plus que jamais, notre planète est notre maison commune et effectivement, nous avons un devoir de solidarité.
C'est exactement cela, je ne peux pas dire mieux que ce que vous résumez.
Oh, c'est vous qui l'avez écrit, hein. Je vous remercie Philippe Thirion et voilà, bonne fête de Pâques.
Merci.
En France et à Madagascar. Voilà. Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Corinne Denis, bénévole à la paroisse Saint-Vincent de Paul, une paroisse dans le 10e arrondissement de Paris, près de la gare du Nord et de la gare de l'Est, une paroisse qui a répondu à l'appel du diocèse de Paris pour venir en aide aux personnes de la rue, aux personnes isolées, avec la distribution d'un repas par jour. Corinne Denis, bonjour.
Bonjour.
Alors, remarque du diocèse de Paris et aussi d'ailleurs de toutes les associations, hein, on peut avoir faim à Paris.
Oui, parce que aujourd'hui, avec le confinement, tous les circuits habituels des personnes de la rue sont perturbés. Un certain nombre d'associations qui les accueillaient ont fermé pour protéger les salariés et pour protéger les bénévoles et aussi les personnes accueillies. Et puis, il n'y a plus personne dans les rues, ils ne peuvent plus faire la manche, ils n'ont plus de source, leur source habituelle de revenus ont disparu.
Alors, cette distribution de repas, donc un repas par jour, dans 24 paroisses, dans la vôtre, c'est une opération qui se déroule en association avec la mairie de Paris.
Oui, c'est ça. La mairie de Paris organise la préparation des repas avec, enfin, finance la préparation des repas qui est organisée par l'association Aurore, avec un certain nombre de bénévoles aussi. Et puis, les paroisses se sont associées, le diocèse s'est associé à cette opération pour la distribution.
Alors, c'est un sac, comment ça se passe? C'est un plateau, un sac?
C'est un sac qui contient une salade, un morceau de pain, du fromage, un gâteau. Enfin, ça dépend des jours. L'association fait aussi avec les dons qu'elle reçoit. Et les personnes qui viennent chercher les repas, ce sont vraiment des personnes de tous horizons, qui sont à la rue depuis longtemps ou pas longtemps, des personnes qui se retrouvent, par exemple, coincées par les contraintes du confinement, qui n'ont pas pu regagner leur pays, leur famille, etc. Et puis aussi des personnes isolées qui ont un toit, mais qui sont vraiment dans le besoin et qui viennent chercher tous les midis un petit quelque chose à manger.
Des personnes qui peuvent être aussi dans des hôtels, par exemple, c'est ça, sans possibilité de cuisiner?
Oui, quelques personnes dans cette situation, mais l'essentiel, c'est vraiment quand même des personnes qui dorment dans la rue, hein.
Vous avez commencé le 26 mars, la première distribution, et aujourd'hui à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, dans le 10e, ce sont plus de 100 personnes qui viennent chercher un repas.
C'est ça, 120 personnes aujourd'hui. Nous en distribuons environ les deux tiers sur place. Et puis, il y a deux petites équipes qui portent des paniers repas à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont beaucoup plus loin dans le quartier, vers la gare de l'Est par exemple, parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'elles ont trop de bagages, parce qu'elles sont handicapées, parce qu'elles sont fatiguées, malades. Et donc on a des équipes qui maintiennent le contact comme ça en portant des repas.
Merci, voilà. Corinne Denis, merci.
Merci, au revoir.
Quel regard les hommes d'église portent-ils sur cette crise sanitaire? Avec nous, en ligne, le pasteur Espoir Majagira Boulangar-Liré, pasteur de l'église protestante Unie de France et président fondateur de la CEAF, la communauté des églises d'expression africaine de France, une communauté qui est membre de la Fédération protestante de France et qui fête cette année ses 30 ans. Intellectuel et homme de terrain, ce Congolais est aussi un bâtisseur. Avec son père, le pasteur Jean Urijita, eh bien, il a fondé notamment une clinique près de Bukavu, dans le Kivu, et puis également la première université évangélique d'Afrique qui fête également ses 30 ans. Monsieur le pasteur, bonjour.
Bonjour.
Quel est le regard, en tant que pasteur, que vous portez sur cette crise sanitaire, Majagira Boulangaliré?
En tant que pasteur, je dirais vraiment une chose très très simple, hein, c'est l'impréparation de l'Église par rapport à cette crise. L'Église n'a pas vu venir, hein, et cela est vraiment dommage. Mais en tant que comme, j'ai envie de dire que ce qui me frappe, c'est de dire que ce n'est pas une crise qui n'était que pour les Chinois, ce n'est pas une crise qui est que pour les pauvres. Cette fois-là, elle n'a pas commencé en Afrique. C'est une crise en fait qui est mondiale et qui demande une résolution, une réponse aussi mondiale. J'ai envie de dire, c'est une crise qui nous montre que l'Occident ne peut plus se comporter comme le seul endroit où on peut résoudre les problèmes, qu'il faut avoir un regard beaucoup plus universel et mettre en place peut-être un nouvel ordre pour pouvoir affronter les choses quand elles arrivent.
Pasteur Majagira Boulangaliré, la République démocratique du Congo, pays dans lequel vous êtes né, a connu une très grande crise, c'est celle d'Ebola. Alors, est-ce que vous avez effectivement, en tant que Congolais, j'allais dire, des conseils à donner pour les pandémies?
La première chose que je vais dire par rapport à cette pandémie d'Ebola, c'est d'abord que si cette pandémie a pu être vaincue, tout cas d'une manière générale, c'est parce qu'elle a été prise en charge par les Congolais eux-mêmes. On a réussi quelque part à vaincre simplement par l'obéissance de la population et l'implication des chercheurs locaux dans la lutte contre la maladie elle-même. Si on fait maintenant un rapport de cela par rapport à la maladie qui arrive, évidemment on peut dire qu'heureusement pour nous que le peuple est un tout petit peu préparé, mais j'ai dit aussi que c'est... Non, j'ai pris pour que simplement cette maladie n'arrive pas en Afrique parce que les mesures de confinement telles qu'on les prend ici sont totalement impossibles à appliquer là-bas. Sauf si on se prépare, en fait, à provoquer ce que je peux appeler une révolution des affamés. Parce que les gens ne vivent que quotidiennement par ce qu'ils trouvent dans les champs, et que tous les champs ont été décimés par les crises successives et politiques se sont suivies. Il n'est pas possible pour prendre en charge, ne fût-ce que d'une manière humaine, la population si on doit la confiner.
Le dilemme que vous posez, pasteur Boulangaliré, eh bien, c'est rester confiné ou mourir de faim, quoi.
Voilà. Et comme ce resto communal ou mourir de faim, il faut donc que les gens ne soient pas confinés. Pour qu'ils ne le soient pas, c'est la mise en quarantaine des personnes malades qui arrivent tous de l'extérieur ou de classes supérieures qui peut aider. Et si aujourd'hui on est sérieux vraiment dans la mise en quarantaine de quelques malades qui apparaissent, qui sont bien repérés et qui sont des gens qui sont venus de l'extérieur, je pense qu'à ce moment-là, on doit lutter pour que la maladie n'entre pas et non pas pour la soigner quand elle est déjà rentrée. Parce qu'on n'a pas les moyens médicaux pour le faire.
Votre message de Pâques ?
Mon message de Pâques, c'est que peut-être, là aussi c'est vrai, il faut qu'on refasse une nouvelle Pâques sans les trahisons successives dans lesquelles nous vivons et par nos dirigeants d'église, nos dirigeants de pays, pour que les gens en fait retrouvent Dieu dans sa simplicité, comme quelqu'un qui les sauve, mais qui les sauve dans la vérité.
Je vous remercie, pasteur Espoir Boulangaliré Majagira. Merci beaucoup.
Merci Geneviève.
Avec nous en ligne, un autre pasteur de l'Église réformée, né en République démocratique du Congo, le pasteur Philippe Kabongo Mbaya. Comme le pasteur Espoir Majagira Boulangaliré, le pasteur Philippe Kabongo Mbaya est impliqué dans son pays natal. Bonjour, monsieur le pasteur.
Bonjour, madame Delrue.
Alors, à l'occasion de Pâques, vous avez écrit une méditation qui s'appuie sur l'évangile de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Manifestement, cela vous a inspiré pour cette période de confinement du coronavirus.
En fait, j'ai eu une intuition très claire que le Christ ressuscité parlait à ses amis, à ses disciples, comme à des personnes traumatisées, qui ne comprenaient pas ce qui venait de leur arriver avec l'exécution de leur maître. Et il leur est apparu en leur disant « Voici, je suis avec vous ». Habituellement, on a tendance à considérer que c'est une promesse, un engagement du Christ pour sa présence avec nous jusqu'à la fin de temps. En réalité, ça signifie, quand on voit les textes, qu'il s'agit d'une présence en ce moment-là, dans cette situation-là, où eux vivaient l'expérience de confinement, si je puis dire, avec anachronisme, en fait, de repliement sur eux-mêmes, il apparaît au milieu d'eux, il leur parle et il les envoie.
Alors, sur la question du confinement et de la solitude apparente, là, cette fois-ci, entre les êtres humains qui ne peuvent pas se rencontrer, voire, en ce dimanche de Pâques, communier ensemble, quelle est votre réflexion ?
Ben, je crois que la certitude, ou tout au moins cette conviction que nous ne sommes pas seuls, que l'autre, avec un grand A, nous a rejoints et nous dit « Voici, je suis avec vous. Regardez, je suis au milieu de vous. » Cette façon-là de vivre une forme de théophanie, de christophanie, nous ouvre ipso facto à la présence des autres. La présence des autres n'est pas seulement une présence physique, c'est une présence dans nos consciences, c'est une présence à nos esprits, c'est une présence à tout ce qui nous relie à eux, quelle que soit la distance, les événements et toutes les vicissitudes de l'existence. Nous sommes reliés aux autres et les autres sont reliés à nous et c'est ça qui fait notre vie. Donc de dire « il est avec nous, les autres sont avec nous », c'est un sentiment puissant d'exister véritablement, parce qu'on ne peut exister véritablement qu'avec les autres.
Alors le fait que la planète entière vive la même situation au même moment, même à des degrés différents, qu'est-ce que cela vous inspire aussi? On parle beaucoup de maisons communes, l'Église souvent parle de maisons communes. Est-ce que plus que jamais, nous formons une maison commune du fait de ce coronavirus qui nous atteint tous?
Il y a une chose très importante que je peux être un peu escamotée, c'est le confinement et même l'expérience faite par les disciples auxquels le Christ ressuscité apparaît, à quelque chose de spécifique, c'est une sorte de trauma. En fait, c'est l'expérience de la peur. Le contraire de la foi, ce n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est la peur. Nous sommes aujourd'hui complètement vérolés par cette peur. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quel que soit le pays qui est le nôtre, nous sommes totalement tétanisés par cette peur d'une mort qui rôde et qui est une mort massive, une mort dévastatrice. Eh bien, en ce temps de Pâques, pouvoir dire qu'il y a autre chose que cette peur de la mort massive, de la mort qui fauche tout, et à commencer par des êtres chers, personnellement, j'ai fait l'expérience de cela, cette expérience-là, d'une conviction que les autres sont là, un autre est avec nous, non pas pour la mort ou face à la mort, mais pour la vie et face à la vie. Ça change tout.
Je vous remercie, pasteur Philippe Kabongo Mbaya. Merci pour voilà,
merci
votre présence.
Merci à vous, madame Delru, et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Si le Covid-19 est omniprésent dans l'actualité européenne, américaine et asiatique, en revanche, peu d'informations nous parviennent du Proche-Orient, actuellement pourtant sous forte tension, avec la crise humanitaire, des déplacés en Syrie, tension également en Irak, et puis le Liban qui est en pleine bérésina économique. Avec nous en ligne, Mgr Gollnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Mgr, bonjour.
Bonjour.
Votre message de Pâques appelle les chrétiens de France à vivre ce carême avec les chrétiens d'Orient qui ont, dites-vous, une solide expérience de la souffrance et du rebond et dont l'histoire est un témoignage de foi, d'espérance et de charité.
Oui, tout à fait. Et je voudrais, si vous me permettez, avoir une pensée d'amitié pour tous les collaborateurs de la radio en espérant qu'ils ne soient pas trop atteints.
Merci.
Les chrétiens d'Orient sont dans des épreuves multiples puisque avant même la crise du coronavirus, ils étaient dans une crise politique, économique depuis longtemps. L'Irak est déchiré par des mouvances diverses et qui empêchent bien souvent l'action de l'État de remplir sa mission. Le Liban est dans une crise majeure et la Syrie est en état de guerre. Donc évidemment, la situation était déjà difficile avant l'arrivée du coronavirus, et maintenant c'est infiniment plus grave, c'est la crise dans la crise. Pour les chrétiens, il y a d'abord le désir profond d'être au service de l'ensemble de la population. Je rappelle que les chrétiens soignent les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens, et jouent donc leur rôle social avec ténacité. Et ils vont fêter Pâques, souvent les amis musulmans d'ailleurs, les visitent quand c'est possible, ce jour de Pâques, pour les encourager. Donc la fête de Pâques est importante, bien sûr, et ils seront unis aux souffrances du Christ et à la mort du Christ, parce que quand vous vivez ces épreuves, cette union est facile. La résurrection, à la limite, c'est plutôt plus complexe, mais cependant, pour les chrétiens, la résurrection, c'est pas le couronnement de nos optimismes éventuels ou de nos naïvetés ou de notre confiance dans je ne sais quel avenir. La fête de Pâques, c'est un don de Dieu, et Par conséquent, nous recevons cette mission de fête et Pâques et cette mission de rayonner de joie et d'espérance. Et c'est ainsi que le vivent les chrétiens d'Orient, comme d'ailleurs les chrétiens d'Occident.
Monseigneur Gollnisch, quel sens donnez-vous à cette Pâques 2020, une Pâques coronavirus, va-t-on dire ? Quel sens donnez-vous à cette fête de Pâques dans ce contexte très précis ?
Ce qui est très troublant pour beaucoup de l'humanité qui est confinée, et en particulier pour les croyants, c'est que nous sommes isolés les uns des autres. Donc, nous ne pouvons pas nous rassembler. Alors, célébrer Pâques, c'est le faire d'une manière rassemblée. C'est la fête d'un peuple, d'abord, avant d'être la fête d'un individu. Là, nous ne pouvons pas le faire. Les fidèles sont privés de communion et les prêtres sont privés de fidèles. C'est-à-dire que nous sommes isolés, nous-mêmes, lorsque nous célébrons. Eh bien, je crois que c'est une occasion tragique, hein, que je n'aurais pas souhaité, mais c'est une occasion de creuser peut-être ce que nous appelons la communion spirituelle, et assez bizarrement, grâce aux technologies modernes, nous vivons une forme de communion peut-être plus austère, plus sobre, mais peut-être plus approfondie aussi. J'espère que ça va être dépassé, on ne va pas en rester là, mais nous pouvons, dans cette tragédie, rechercher des attitudes positives. Si je peux me permettre, je relisais récemment La peste d'Albert Camus, qui était donc écrit en 1947, qui dépeint une peste à Oran, en Algérie. C'est un roman, mais tous les ingrédients y sont, et j'invite à relire ce livre.
Oui, je crois d'ailleurs que c'est un grand succès de librairie actuellement. Je vous remercie, Monseigneur Gollnisch, pour ce témoignage, et je vous souhaite une belle fête de Pâques. Merci.
Merci à vous.
Religion du monde.
Quel sens donner à cette fête de Pâques 2020 pour les chrétiens ? Quel regard philosophique, spirituel porté sur cette pandémie ? Nous poursuivons cette réflexion avec nos deux invités, Marie Jotil, médecin, théologienne catholique, spécialiste en éthique et bioéthique, auteur d'une vaste étude publiée en 2019 sur l'Église face aux abus sexuels, et puis le philosophe et essayiste Bertrand Verjoli, de confession orthodoxe. En ligne de Moselle, Marie Jotil. Bonjour Marie Jotil.
Bonjour Geneviève.
Alors, toute votre carrière de médecin et d'éthicienne s'est déroulée et continue de se dérouler à Strasbourg. Vous êtes, je le précise, la directrice du Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique. Alors, c'est aux médecins et à l'habitant du Grand Est que je pose ma première question, le Grand Est premier touché, particulièrement touché par le coronavirus. Comment se portent les habitants ?
Eh bien, les habitants observent de façon extrêmement rigoureuse actuellement le confinement, et pour cause, parce que la pandémie
il apparaît qu'elle touche absolument tout le monde. Dans toutes nos villes et villages, il y a des gens qui sont malades et qui sont morts pour certains. Donc c'est vrai que c'est extrêmement angoissant. Je dirais que nous le vivons par la force des choses. Il n'y a pas de liberté où on se promène tout seul. On est vraiment très prudent malgré la difficulté du confinement.
Est-ce que la peur est palpable?
Oui, la peur est palpable, et en particulier aussi chez les soignants. Il faut bien comprendre que, par exemple, chez les soignants, c'est, et surtout les soignants jeunes, c'est pour ainsi dire la première confrontation à la mort. Souvent, on peut traverser des études de médecine, d'infirmiers, d'aide-soignants, sans avoir jamais été réellement confronté à la mort ou à la maladie très grave. Ici, il y a la mort quasiment quotidienne. Donc c'est extrêmement difficile et je crois que c'est pas si simple et qu'on aura aussi à faire face à cela dans un deuxième temps, un stress post-traumatique pour certains, des angoisses pour d'autres, certainement.
Alors, trois questions à la laïticienne que vous êtes et aussi aux médecins catholiques. Trois questions éthiques. Celle de ce qu'on appelle le tri entre les malades. La question de la chloroquine et celle du tracking. Alors, commençons par la question du tri. Marie Jotil.
Oui, la question du tri, elle est apparue de façon assez rapidement dans l'est de la France parce que on se retrouve à un moment donné, quand il y a tellement de malades, on se retrouve à des ressources insuffisantes avec fermeture de lits, des respirateurs qui manquent, des tenues qui manquent, des masques qui manquent. Enfin, vraiment, une insuffisance de ressources, je crois que tous les médias l'ont amplement souligné. Alors, à un moment donné, on se dit, mais comment on fait? Alors, les médecins ont été, entre guillemets, accusés à un moment donné de ne pas soigner peut-être suffisamment les personnes âgées, les personnes qui avaient déjà un certain nombre de comorbidités. Je crois qu'il faut être extrêmement clair. En France, on n'est pas arrivé pour le moment à cet extrême. On a transféré des malades. On a fait tout ce qu'il était possible de faire par rapport aux personnes âgées. Ceci étant, il faut bien voir la situation dans les critères pour prioriser des patients qui doivent bénéficier des traitements. On prend tout en compte. On prend en compte pas seulement l'âge, mais aussi les possibilités même du traitement, la possibilité d'un succès du traitement. Si on voit à l'avance, et la médecine de réanimation a toujours fait cela, et en particulier aussi la médecine de guerre, a toujours essayé de voir quelles sont les chances de survie. Donc, à ce niveau-là, je crois que c'est très important de rassurer tout le monde. Vous me posiez la question à l'instant du grand test, etc. On met à l'hôpital un certain nombre de patients, mais les gens qui sont dans les EHPAD, les personnes âgées à domicile, toutes ces personnes-là, elles ne vont pas forcément bénéficier de toute la médecine de pointe que nous avons aujourd'hui par la force des choses. Par la force des choses. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de questions à reprendre dans un deuxième temps.
Puisque nous parlons de traitement, Marie Jotil, la polémique autour de la chloroquine, quelle est votre position?
Ma position est que très clairement, il faut savoir si elle est efficace ou pas. Or, pour le moment, on n'a pas d'études qui soient suffisamment probantes. La chloroquine, elle a certainement de l'intérêt, mais rien de plus. Le Covid-19, on peut en guérir. Donc on ne sait pas, est-ce que c'est la chloroquine ou est-ce que c'est finalement une évolution naturelle de la pathologie parce que le corps a trouvé des ressources en lui-même. Donc il faut être vigilant et savoir si effectivement, et on le saura rapidement, je pense, d'ici 8 jours, il y a la chloroquine, mais il y a aussi 3 autres molécules et puis il y a les molécules en association. Qu'est-ce qui est le plus performant?
Dernière question éthique, celle de la traçabilité, de la population, ce que l'on appelle le tracking.
Oui, c'est une question extrêmement difficile parce que c'est un peu ce qui nous attend. C'est quelque chose qui est usuellement utilisé dans les pays asiatiques. Nous sommes extrêmement réticents en Europe et en particulier en France. La question, il y a une question de fond derrière. Est-ce que vraiment la liberté nous tient vraiment à cœur au point que nous acceptons certains risques, ou est-ce que cette liberté doit être une liberté, je dirais, dans une cage dorée parce que finalement on est tous tracé avec les données de notre téléphone portable. C'est une vraie question de fond parce que nos libertés s'entremêlent, elles se superposent, ce n'est pas une question très simple.
Votre message de Pâques, Marie Jotil ?
Alors, mon message de Pâques, je dirais que d'abord, il faut rejoindre l'immense supplication du monde, le désarroi des soignants, le cri des intubés, des personnes âgées, ouais, des politiques qui ne savent pas quoi faire. Je dirais que Pâques ne se célèbre pas dans l'Église cette année, mais elle réunit des chrétiens et au-delà, tous ceux qui désirent ardemment cette Pâques, pour leur permettre de faire le passage, de faire le passage de la mort à la vie, Pâques veut dire passage de la nuit à la lumière, du désespoir à l'espérance. Moi, je crois que cette épidémie, c'est aussi une rupture dans notre manière de penser par rapport au présentisme du consumérisme et que nous allons de l'avant avec une perspective de citoyenneté, je dirais aussi de chrétienté participative. Voilà. Ne désespérons pas, retrouvons notre vrai métier de chrétien, notre vrai métier qui est de rendre service, de nous aimer les uns les autres, d'aller de l'avant, de construire ensemble, d'être dans cette créativité libérante pour tous et pas seulement moi dans mon petit coin. Le changement climatique, toutes ces choses-là, eh bien, il faut les avoir aussi à cœur pour essayer d'avancer. Pâques sera vraiment Pâques si nous arrivons à nous libérer de notre présentisme à cause de cette société de consommation qui ne voit parfois pas plus loin que le bout de son nez. Donc nous avons beaucoup à gagner dans cette perspective participative et je crois que Pâques, c'est aussi la joie pascale, la confiance et l'espérance.
Merci. Voyons plus loin effectivement que nos chariots. Merci Marie Jotil pour ce beau message de Pâques. Merci.
Et merci à vous.
En ligne d'Orléans, nous retrouvons le philosophe et essayiste Bertrand Vergely, auteur de nombreux ouvrages, un des derniers « La tentation de l'homme-dieu », qui est une réflexion sur l'homme postmoderne. Bertrand Vergely, qui est de confession orthodoxe. Bertrand Vergely, bonjour.
Bonjour.
Vous avez beaucoup travaillé sur le sentiment de toute-puissance de nos sociétés occidentales. Une histoire de pangolins, de chauves-souris vendus sur le marché d'une mégalopole chinoise, et puis Le Monde, quelques temps après, qui est à genoux, et à l'heure où nous enregistrons un Premier ministre britannique touché par le Covid-19 qui est en soins intensifs. Est-ce que ça n'est pas vertigineux, Bertrand Vergely ?
Bien évidemment que c'est vertigineux, et je crois qu'il faut aller tout de suite à l'essentiel. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre ? Nous sommes en train de découvrir notre vulnérabilité. Nous pensions que le système dans lequel nous sommes est un système invulnérable. Son mot d'ordre, c'était libérer le champ des possibles. On était effectivement dans la toute-puissance. Et du jour au lendemain, ce régime mondial que l'on pensait invulnérable et ouvert à tous les possibles se révèle d'une incroyable fragilité. Du jour au lendemain, on peut être amené à vivre et à devoir vivre chez soi pendant un mois, alors qu'une semaine auparavant, on ne s'y attendait pas. Donc je crois que c'est ça qui apparaît, et qui est ce décalage entre notre appétit de puissance, et puis d'autre part, la réalité de ce qui se passe.
Alors c'est une leçon tragique.
Non, c'est une leçon d'éminente sagesse. Vous savez, lorsque les généraux romains traversait Rome en triomphe, il y avait toujours quelqu'un qui lui disait, un esclave qui lui disait dans l'oreille, « Souviens-toi que tu n'es qu'un homme. » Et je pense que nous sommes en train de nous souvenir que nous sommes des hommes, et quand nous nous souvenons que nous sommes des hommes, nous découvrons le trésor le plus prodigieux qui soit. Nous voulons ouvrir le champ des possibles, parfait, mais il passe de l'intérieur de nous-mêmes. Et je crois que nous vivons un temps de renouveau dont nous allons apprécier dans plusieurs mois et dans les années qui vont venir l'incroyable nouvelle qu'il est en train d'introduire dans nos vies.
Oui, en même temps avec aussi du chômage de masse, une crise économique qui fait peur, un krach boursier aussi, hein, disons-le. Hein.
Nous avons affaire à des choses extrêmement difficiles sur le point de vue sanitaire, des drames familiaux,
ben oui,
bien évidemment la difficulté de toutes ces personnes qui sont confinées, et puis les problèmes économiques. Mais attention, ne mélangeons pas tout. Il y a d'une part les difficultés, et d'autre part, il y a les forces qui sont en présence à travers les difficultés. Aujourd'hui, les difficultés n'empêchent pas les très grandes forces, et c'est parce qu'il y a des très grandes forces que nous allons faire face aux difficultés.
C'est peut-être cela d'ailleurs, Bertrand Vergely, qui fait une différence avec, par exemple, la grippe espagnole en 1918, plus de 21 millions de morts en Europe. C'est que là, il y a une forme d'énergie collective et puis de savoir, bien sûr, qui a progressé depuis en un siècle, évidemment.
Oui, il y a beaucoup de choses qui sont positives et qui se passent. Et je crois que, vous savez, dans toutes les grandes épreuves de l'humanité, vous avez deux choses. Vous avez les drames et puis en même temps, vous avez les forces créatrices qui s'expriment à travers ces drames. Bien évidemment, il y a une spécificité aujourd'hui, c'est le rassemblement mondial autour de cette question de la pandémie et cette solidarité internationale qui se fait jour.
Souvent vous pointez du doigt, Bertrand Vergely, le matérialisme de nos sociétés, fort déspiritualisé. Est-ce que cette crise peut, selon vous, effectivement, remettre sur le chemin de la spiritualité un certain nombre de personnes?
Nous n'en savons rien. Je crois qu'il est très important, quand on aborde cette grande question à propos de l'avenir, à propos de la positivité, de ce qui se passe, de répondre toujours personnellement. Qu'est-ce qui va se passer pour l'humanité? Je ne sais pas, mais je reste les yeux grands ouverts et dans une attente vigilante et bienveillante. En même temps, qu'est-ce qui change pour moi? Qu'est-ce que moi je suis en train de faire et de changer? Ça me paraît être une question pertinente. Et nous voyons quoi? La vie et les hommes y ont déjà répondu. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'humour, de créativité, d'adaptation à une vie confinée qui s'est faite. Et je pense que, vous savez, il y a toujours un décalage entre la pensée et la vie. Et souvent, la vie pense plus juste que la pensée. Et je crois que la manière dont les gens vivent est très juste. Et il y a beaucoup de choses très belles et très justes qui se passent. C'est ça que je vois. C'est-à-dire que nous sommes déjà dans au-delà de la crise. Nous sommes déjà dans une manière de vivre assez créatrice qui a vu le jour, qui est plus forte que la crise elle-même. Et ça, c'est un très grand enseignement.
Alors, on insiste beaucoup actuellement sur la fraternité, sur la cohésion. On entend quand même des voix de l'opposition s'élever, etc., à l'égard des gouvernements. Est-ce que vous pensez que ça n'est pas le moment de fragiliser un peu plus encore nos démocraties?
Bien évidemment, il ne s'agit pas de rentrer dans des procès et de commencer des règlements de comptes et des vengeances. Il y a trois choses qui doivent être faites et qui se font à l'intérieur de la crise qui se passe. Il y a un problème très concret qui est sanitaire, il y a un problème politique qui se pose et qui va se poser, et puis il y a un problème intérieur d'éthique personnelle. Au niveau politique, il y a deux manières de poser la question. J'espère qu'on évitera le grand lavage de linge sale, les vengeances et l'appétit de revanche et de colère que l'on sent venir. Et que l'on pourra posément poser la question de savoir quels sont les dysfonctionnements qui ont eu lieu et comment on peut y remédier. Donc c'est une épreuve pour la démocratie dans la mesure où ça nous demandera d'être dans la maturité. J'espère qu'on ne verra pas des scènes du genre la fin de la libération. Tout d'un coup, on se met à s'évoluer d'une espèce de chasse aux sorcières et à des épisodes de vengeance. Malheureusement, ils seront inévitables. Il y a de la colère et il y a des gens qui ont des comptes à régler. J'espère que nous aurons une maturité qui sera plus forte que la colère.
En quelques mots, Bertrand Vergely, votre message de Pâques.
Écoutez, le message de Pâques, c'est de rester fort, de rester solidaire et de savoir qu'actuellement, les forces célestes et divines travaillent à nos côtés en permanence pour notre salut. Dieu n'est pas en face de nous pour nous juger et nous punir, il est avec nous pour nous sauver.
Je vous remercie Bertrand Vergely pour votre message de Pâques. Merci.
Merci beaucoup.
L'incendie de Notre-Dame a bousculé la vie liturgique, artistique, culturelle qui était attachée dont celle de sa célèbre maîtrise. Avec nous en ligne, Lucile de Trémiol, l'un des quatre chefs de chœur. Lucile de Trémiol, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Vous êtes doublement pénalisée, peut-on dire, non seulement depuis un an vous chantez hors les murs de la cathédrale, mais pas de messe chantée en ce dimanche de Pâques.
Alors la messe, effectivement, là de Pâques a lieu à huis clos, à Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est l'église d'ailleurs dans laquelle ont lieu les offices et les messes à huis clos depuis le début du confinement. Et vous parliez effectivement de l'incendie. Depuis un an, la liturgie a lieu principalement à Saint-Germain-l'Auxerrois avec la maîtrise, les différents chœurs de la maîtrise. Et effectivement, la maîtrise a été bien impactée par cet incendie. Heureusement, la liturgie et les concerts ont pu avoir lieu dans d'autres endroits à Paris. On peut aller à Saint-Eustache, Saint-Sulpice, Saint-Étienne-du-Mont, Saint-Séverin, qui ont été donc des églises qui ont accueilli les concerts de la maîtrise. Et c'était finalement une belle occasion de rayonner dans d'autres lieux et d'aller à la rencontre d'un nouveau public. Je dois dire que c'est une occasion qui a rencontré pas mal de succès, puisqu'effectivement, on voit qu'on fidélise un nouveau public qui suit la maîtrise, qui était peut-être déjà là avant à la cathédrale. Et puis, il y a aussi une présence forte de la maîtrise ailleurs, dans la ville, auprès des jeunes publics et des publics éloignés. On fait pas mal d'actions dans les écoles primaires, EHPAD, à l'hôpital Necker et aussi dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Voilà, c'est une manière pour la maîtrise d'être vivante, d'avoir un esprit de Notre-Dame qui vit finalement hors les murs.
À l'occasion du premier anniversaire de l'incendie de Notre-Dame, Warner Classics sort un CD avec de très beaux chants.
Oui, effectivement, ce sont des chants qui ont été enregistrés dans la cathédrale, donc pour permettre d'avoir un souvenir vivant de cette acoustique que nous aimons. Vous avez entendu un extrait de Magnificat de Jean-Charles Gandry. En fait, Jean-Charles Gandry est un compositeur qui est vivant actuellement, qui est même assez jeune. Pour nous, c'est l'occasion de montrer qu'il y a une musique, savante, vivante, et une belle musique. Il y a aussi sur ce disque un extrait des Vêpres à la Vierge de Philippe Hersant, qui avait été commandé pour le jubilé de la cathédrale, entre autres.
Merci Lucile de Trémiol, et j'espère que vous retrouverez bientôt l'acoustique de Notre-Dame de Paris. Je rappelle donc que vous êtes l'un des chefs de chœur de la cathédrale et que vous êtes aussi la directrice du festival Le Temps Suspendu, un très beau festival de musique baroque à Saint-Benoît-du-Sault dans le centre de la France, dans le Limousin exactement, et qui se tiendra du 27 juillet au 2 août. Je vous remercie.
Je vous remercie.
À noter aussi que pour le premier anniversaire de l'incendie de Notre-Dame, l'hebdomadaire d'actualité chrétienne Le Pèlerin, qui suit de très près le patrimoine religieux en France, sort à cette occasion un numéro spécial avec des photos inédites du chantier prises par le photographe attitré de la cathédrale, Stéphane Compoint. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Sophie Janin vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bon dimanche confiné, bonne semaine à tous.